الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فما زلنا مع قراءة هذا الكتاب المبارك ألا وهو التمهيد لشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمعالي الشيخ الصالح ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى ورعاه وما زلنا في مقدمة هذا الكتاب. طيب بسم الله أخانا محمد الوازن كما تتفضل أخي عفوا
زدين
حفظت المد حفظها
لا ما حفظت
محمد تفضل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقوله
وقضى ربك
وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا عن آيات.
نعم الحمد لله أخي أركان حفظنا؟ معلش.
قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الآية وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآية وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا الآية قال
نعم أحسنت ما شاء الله بارك الله فيك. طيب قال تعالى أو قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله تعالى قل من ولا لا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط ولا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Donc, on passe au verset suivant. Ici, le cheikh Saleh, Ridhaullah Ta'ala, il a mentionné dans son entièreté, yani le verset 151 jusqu'à 153. Dans le sens rapproché à Allah Tabaraka wa Ta'ala, il dit, « Dis, venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Ne lui associez rien. » Et soyez bienfaisants envers votre père et votre mère. Ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté. Nous vous nourrissons tout comme eux. N'approchez pas des fawahish, des turpitudes, ouvertement ou en cachette. Ne tuez qu'en toute justice, selon la loi islamique, la vie qu'Allah a faite sacrée. Voilà ce que Allah vous a recommandé de faire. Peut-être comprendrez-vous. Et ne vous approchez des biens de l'orphelin que de la plus belle manière, jusqu'à ce qu'il ait atteint sa majorité, et donner la juste mesure et le bon poids en toute justice. Nous n'imposons à une âme que selon sa capacité, et quand vous parlez pour juger ou témoigner, soyez équitable, même s'il s'agit d'un proche parent, et remplissez votre engagement envers Allah, voilà ce qu'il vous enjoint, peut-être vous rappellerez-vous. Et certes, ceci constitue mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc et ne suivez pas les autres sentiers qui vous écartent de sa voie. Voilà ce qu'il vous enjoint. Ainsi deviendrez-vous des muttaqoun. Naam. Idan, qawluhu ta'ala, qul ta'alaw. Ya'ni, ya man harrama ba'd al-an'am, wa aftara 'ala Allah fi dhalik. Ta'alaw, atlu ma harrama rabbukum 'alaykum. أن لا تشركوا به شيئا قال العلماء أن هنا تفسيرية ومفسرها محذوف تقديره وصاكم تقديره وصاكم لأن أن التفسيرية هي التي تأتي بعد جملة فيها معنى القول دون حروفه وإنما قدروا المحذوف بقولهم وصاكم لأنه جاء في آخر الآية قوله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون وقال في الآية الثانية لعلكم تذكرون وقال في الثالثة لعلكم تتقون فكل هذه الثلاث فيها التوصية فيكون تقدير الكلام إذن قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أي وصاكم أن لا تشركوا به شيئا يعني أمركم لأن الوصية هنا شرعية وإذا كانت الوصية من الله شرعية فهي أمر واجب فهي أمر واجب نعم وقوله أن لا تشركوا به شيئا دلالتها على التوحيد كدلالة آية النساء التي قبلها ثم ساق الشيخ رحمه الله أثر ابن مسعود نعم donc lorsqu'il dit Allah tabarak wa ta'ala dit ta'ala ou venez d'accord donc Allah il s'adresse à son messager sallallahu alayhi wa sallam il lui dit venez c'est-à-dire venez ô vous qui avez interdit certaines bêtes à la consommation. Donc, ils prétendaient que certains animaux étaient illicites à la consommation. Et donc, ils ont menti au sujet d'Allah tabaraka wa ta'ala. Hein, c'est pour ça qu'Allah il lui dit, « Dis ta'ala, venez, que je vous récite ce que votre Seigneur a interdit pour vous. » Et la première chose qu'il a évoquée, c'est quoi? An la tushriku bihi shay'an. Hein? An la tushriku bihi shay'an. Que vous ne lui associez rien. Donc le an ici, c'est un an qu'on dit dans la langue arabe tafsiriya. C'est un an qui va détailler et expliquer. Et expliquer la chose. Donc qu'est-ce que Allah vous a interdit? Qu'est-ce que votre Seigneur vous a interdit? An la tushriku bihi shay'an. Et donc ce an on l'appelle tafsiriya. C'est un an explicatif. D'accord? Et ce qui est expliqué par ce an là, il est mahdouf. Ici, il n'est pas dit par Allah. Il est sous-entendu. Et c'est quoi? C'est wassakum. Wassakum. Il vous a recommandé. Donc une wasiya, c'est une recommandation. Allah vous a recommandé. D'accord? Non. Pourquoi? Parce que le N, tafsiriya, il vient après une phrase dans laquelle on a le sens de la parole, mais sans que Allah Jalla wa Ala n'ait utilisé le terme de la parole, qui est qala yaqulu ou al qawl. D'accord? Ici dans wassaqu, on a le sens de la parole. Hey, qala lakum. Allah il vous dit, mais sans qu'Allah ait utilisé le terme qala. Il a dit wassaqu. D'accord? Donc lorsqu'on a un verbe, une notion qui exprime le langage, qui exprime la parole, mais sans que ce ne soit le terme explicite de la parole, eh bien, on va utiliser ce N qui est le N tafsiriya, l'explication. Hein? قُلْ تَعَالَوْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا كَذَا وَكَذَا. طيب. Donc, ce qui est sous-entendu, c'est quoi? وَسَّاكُمْ. Retenez bien la chose qui est implicitement dite par Allah, c'est wassakum. Il vous a recommandé. De quoi? De ne rien lui associer. C'est bon? Première recommandation. Non. Puis on a à la fin du premier verset, la'allakum ta'qilun. Ainsi, hein, comme ils ont traduit, peut-être comprendrez-vous, peut-être raisonnerez-vous. D'accord? À la fin du second verset, on a la'allakum tadhakkarun. Peut-être vous rappellerez-vous. Et à la fin du troisième verset, on a la'allakum tattaqun. Ainsi atteindrez-vous at-taqwa, la piété religieuse. Donc les ulama disent celui qui respecte, hein, toutes les choses qu'il y a dans ces trois versets-là, eh bien, il aura acquis ces trois choses-là. Al-aql, la raison, l'intelligence, hein, ainsi que at-tadhakkur, le fait de se rappeler, et aussi at-taqwa, la piété. Non. Donc, ces trois choses-là comportent la recommandation d'Allah. Tawsiyat Allah Azza wa Jal. Ça y est. Donc, encore une fois, la chose qu'Allah Jalla wa Ala veut dire ici, de manière implicite, c'est qu'il vous a recommandé de ne rien lui associer. Mais ici, il faut savoir que la recommandation religieuse de la part d'Allah Jalla wa Ala, c'est un ordre. La wasiya d'Allah Jalla wa Ala pour ses créatures, c'est un ordre. Non. Donc c'est comme si Allah te disait, il vous a ordonné, amarakum. Il vous a ordonné. Donc lorsqu'il dit, alla tushriku bihi shay'a, de ne rien lui associer, ici on a donc l'indication de l'obligation du tawhid, hein, comme on l'a vu dans le verset précédent de la sourate An-Nisa. D'accord, c'est la même argumentation pour dire que cette expression-là, Allah tushriku bihi shay'an, c'est l'obligation du tawhid, l'interdiction du shirk. On avait vu, hein, an la tushriku. Vous avez vu que an la tushriku, ça désigne toute forme de shirk. Le verbe ici, bil mudari', hein, après un lam, ici c'est un lam de quoi? An la tushriku. An la tushriku bihi shay'an. Hein? Nahia, tu es sûr? Ma harrama rabbukum alaykum an la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana wa la taqtulu awladakum. Nafia. Salam nafia ici. D'ailleurs, comme dans le verset, dans la sourate Al-Isra, j'avais dit que c'était un la nahia, c'était un la nafia. Le la nahia, il est dans sourate Al-Nisa. وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Là, c'est un la d'interdiction. Nahia. Dans la sourate Al-Isra, ainsi que dans la sourate Al-An'am, c'est un la nafia, de négation. D'accord ? وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. طيب ? اذكرون. إذن هناك أن ناصبة ولا نافية. الناصبة ولا نافية. وتعبدوا مضارع ماذا؟
منصوب.
ليس بمجزوم. تعبدوا منصوب. بماذا؟ بأن. وعلامة نصبه حذف النون. والواو؟ لا لا. الواو فاعل. الواو فاعل. والواو فاعل. طيب. أكل. ici c'est un la de négation, nafia, également. Et donc, le verbe qui vient après, il va non seulement exprimer le présent, al-mudari', la tushriku, mais il va exprimer aussi al-umum fi jami' anwa' al-shirk. D'accord ? Il va exprimer l'interdiction de toute forme de shirk, que ce soit al-akbar, al-asghar, al-khafi, al-zahir, al-batin, toute forme de shirk, quel qu'il soit. D'accord ? Naam. Et shay'an, ça exprime quoi ici ? Wala tushriku bihi shay'an. Shay'an, il est nakira. Il est indéterminé. Donc, ça veut dire que Allah, il interdit
toute chose.
Toute chose ? C'est-à-dire, toute chose. Il interdit quoi, les frères ?
Toute forme de shirk.
Toute forme, non, toute forme de shirk, on a dit, c'est dans le verbe tushriku. An la tushriku. On a dit que le la nafia, de négation, et le la d'interdiction, lorsqu'il rentre avec quelque chose qui est nakira, qui est indéterminé, il va englober toute chose. Donc, tushriku, ici, il englobe toute forme de shirk. Mais shay'an, ça englobe quoi ici? Shay'an.
Tout ce qui est adoré.
Voilà. Toute chose qui est adorée en dehors d'Allah, tabarak wa ta'ala. Quelle que soit la chose, un ange, un prophète, un pieu, n'importe quelle créature. D'accord? On a vu ça la semaine dernière, hein? Donc ici on a dans ces quelques mots la tushriku bihi shay'an, on a l'interdiction de toute forme de shirk et aussi de toute chose adorée en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. D'accord? Comme dans la sourate elle dit ça précédemment. C'est clair le frère? Thumma saqa shaykh rahimahullah ta'ala athar ibn mas'ud. خنا عبد الله الحديث
قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وسيلة محمد صلى الله عليه وسلم خاتمه عليها فليقرأ
التي عليها خاتمه
خاتمه عليها
التي عليها خاتمه
فليقرأ قوله تعالى تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا.
نعم قف. Donc attention inshallah. Le début, hein. التي عليها خاتمه فليقرأ قوله. إبراهيم الحديث معاذ.
عن معاذ بن جبل رضي الله عنه كنت رفيق النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكنوا. أخرجه في الصحيحين.
أحسنت، بارك الله فيك. طيب، إذا قوله من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى إلى آخره. قوله التي عليها خاتمه يعني التي كانت من آخر ما وصى به ومن آخر ما أمر به، يعني التي لو قدر أنه وصى وختم على هذه الوصية وفتحت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى لكانت في هذه الآيات التي فيها الوصايا العشر. فهذا القول من ابن مسعود رضي الله عنه للدلالة على عظم شأن هذه الآيات التي افتتحت بالنهي عن الشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ دعوته بالأمر بعبادة الله وحده والنهي عن الشرك، واختتمها أيضا كما دل عليه كلام ابن مسعود هذا بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، فدل ذلك على كونه أولى المطالب وأول المطالب وأهم المطالب. دونك لوتر رحمه الله تعالى après les versets il évoque ici deux hadiths. Le premier, celui de Ibn Mas'ud, hein, qui a dit donc au début du hadith, celui qui veut regarder la recommandation ou le testament de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur lequel il y a son khatamuhu, son sceau, qu'il lise la parole d'Allah tabarak wa ta'ala jusqu'à la fin du hadith. Donc lorsqu'il dit allati alayha khatamu, le testament sur lequel il y a le sceau du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc à l'époque, vous savez, ils avaient une bague avec laquelle ils apposaient leur sceau sur la lettre, hein, etc. Il a fermé puis mettait le sceau comme ça. Et donc il dit, c'est-à-dire que fait partie des dernières choses qu'il a recommandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il a ordonné. Ça ne veut pas dire que le prophète il a fait. Le prophète n'a pas écrit, il n'a pas laissé de testament de manière concrète. Là. Mais Ibn Mas'ud, il nous dit que s'il avait laissé un testament, que s'il avait écrit un testament qu'il aurait cacheté avec son sceau et qu'après sa mort, on aurait ouvert sa lettre ou son testament après qu'il ait rejoint Al-Rafiq al-A'la. C'est qui les frères Al-Rafiq al-A'la?
Allah.
Hein?
Allah.
Tu t'inquiètes?
Non.
Où c'est que tu avais ça?
Dans l'histoire de prophète sallam avant sa mort.
Non, mais pourquoi? Qui te dit que c'est Allah Al-Rafiq al-A'la? Le hadith, on le connaît, mais Rafiq al-A'la. Est-ce que tu as vu le charme du hadith? Tu vas écouter le charme?
Non. Ah. J'ai vu qu'Aïcha disait à Dallahu anha que c'était Allah.
Elle a dit?
Non.
Faut être sûr. Si tu as une faïda, dis-la nous, Inch'Allah. Moi, de ce que je sais, c'est qu'à Rafiq al-A'la, هم كما سماهم الله جل وعلا في قوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. D'accord? Moi de ce que je sais de manière certaine, ce que les ulama ils ont dit, الرفيق الأعلى, ce sont ceux qu'Allah Jalla wa'ala a mentionné dans sa parole, mais au sens rapproché, celui qui obéit à Allah et aux messagers, ceux-là seront avec ceux pour qui Allah a comblé les faveurs parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux. Et quelle bonne compagnie que cela. Wa hasna ulaika rafiqa. D'accord ? Donc il a rejoint tous les prophètes, tous les messagers, les pieux, etc. Taïb. Et donc, s'il avait écrit un testament et qu'il avait donc apposé son sceau dessus et qu'on si on l'avait ouvert après sa mort, eh bien on aurait eu la recommandation qui sont dans ces versets-là, hein, de la sourate Mada An-Nisa Al-Wasaya Al-Ashr Al-Wasaya Al-Ashr fi sourate An-Nisa. D'accord ? Ça c'est la parole de Ibn Mas'ud. Et elle nous montre l'importance énorme de ces versets-là. Dans la sourate An-Nisa, qui contient donc les dix recommandations. Qui commence par quoi ? Par l'interdiction du shirk. Par l'interdiction de l'associationnisme. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a commencé sa da'wah par le commandement de l'adoration d'Allah Jalla wa Ala seul et l'interdiction du shirk. Et il a clôturé, comme l'a montré aussi Ibn Mas'ud, par l'ordonnance du tawhid et l'interdiction de quoi ? Du shirk. D'accord les frères ? Non. Surat al-An'am. Afwan. Surat al-An'am, les versets qu'on a lus tout à l'heure, 151 jusqu'à 153. D'accord ? Donc les 10 ici, recommandations. Parce que dans la sourate An-Nisa, on a les 10 huquq. Les huquq al-ashara. D'accord ? Mais là, on a al-wasaya al-ashara. Donc c'est deux choses différentes. On a les 10 recommandations dans la sourate An-Na'am, alors que dans la sourate An-Nisa, on a les 10 huquq, les 10 droits. Non, taïe. Donc, on voit par cela, donc le fait qu'il ait commencé, Allah Jalla wa Ala, par l'ordonnance du tawhid, de l'interdiction du shirk, et qu'il ait clôturé ces versets-là de recommandation par l'interdiction du shirk et l'ordonnance du tawhid, cela nous montre que le tawhid est la priorité absolue. D'accord ? Est la première des exigences et la plus importante des exigences. D'ailleurs, ثم قال بعد ذلك عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا فهذا قد مر بيان معناه لكن الشاهد من هذا الحديث ومناسبته للابتداء ابتداء كتاب التوحيد أنه أتى فيه بلفظ حق الذي في قوله أتدري ما حق الله على العباد ثم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وهذا الحق حق واجب حق واجب علينا لله تبارك وتعالى لأن الكتاب والسنة بل ولأن المرسلين جميعا عليهم الصلاة والسلام أتوا بهذا الحق وبيانه وبيان أنه أوجب الواجبات على العباد. Puis il dit, le Cheikh Mohammed رحمه الله تعالى, le hadith de Mu'adh ibn Jabal qui a dit j'étais sur un âne derrière le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. Donc ils étaient tous les deux sur le même âne, d'accord ? Et le prophète de lui dire « Ya Mu'adh, sais-tu ce qu'est le droit d'Allah sur les créatures ou les serviteurs ? Et ce qu'est le droit des serviteurs sur Allah Jalla wa Ala ?» Il a dit « Allahu wa Rasuluhu a'lam » Et là le prophète de lui répondre « Le droit d'Allah sur les serviteurs est qu'il l'adore et qu'il ne lui associe rien » Et le droit des serviteurs sur Allah Jalla wa ala est qu'il ne châtie pas celui qu'il ne lui ou celui qu'il n'a pas associé à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc il dit le shahid. Le témoin ici de ce hadith et la raison pour laquelle l'auteur a cité ce hadith dans l'introduction du livre, eh bien c'est par rapport au mot employé par le prophète qui est le mot haqq. Le mot haqq qui veut dire la vérité, qui veut dire aussi un droit. Un droit que tu as sur quelqu'un. Le droit que quelqu'un a sur toi. Mathana. Le droit, le haqq, de l'épouse sur son époux, c'est le fait qu'il doit subvenir à ses besoins. On dit haqq zawja. Ala zawjiha. Comprenez? C'est ça un haqq. Dans ce contexte. Donc il dit ici le prophète, sais-tu, ya Mu'adh, ce qu'est le droit d'Allah sur les serviteurs? Donc quelles sont les obligations, yani, des serviteurs vis-à-vis d'Allah, jalla wa ala. Puis il dit, le droit d'Allah sur les serviteurs est qu'il l'adore et qu'il ne lui associe rien. Donc ce haqq, c'est un haqq qui est wajib, c'est un droit qui est obligatoire pour Allah, jalla wa ala, sur les créatures, sur les serviteurs, pour Allah, subhanahu wa ta'ala, car le Coran et la Sunna, même tous les messagers, alayhimus salam, sont venus avec l'ordonnance de ce droit-là, qui est le droit de l'adoration d'Allah jalla wa ala seul. Et ils ont exposé ce droit et ont indiqué que c'est l'obligation la plus obligatoire. C'est l'obligation la plus obligatoire qui pèse sur les créatures. ثم قال وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا وقول حق العباد على الله معناه أن هذا حق أحقه الله على نفسه باتفاق أهل العلم وأوجبه على نفسه كما في بعض أقوالهم كما قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى. Puis il dit, et le droit des créatures sur Allah est qu'il ne châtie pas celui qui ne lui a pas associé. Donc, le droit des créatures sur Allah, c'est-à-dire le droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est imposé à lui-même. Car les créatures n'imposent rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il nous oblige, il nous impose des choses. Allah, il nous a imposé de l'adorer. Mais est-ce que nous, on impose quelque chose à Allah? Rien du tout. Donc Allah, c'est lui qui se l'est imposé à lui-même. D'accord? Qui en a fait un droit à lui-même ou sur lui-même en faveur de ses créatures. Selon le consensus des ulama, le sens de haqq, haqq al-ibad, c'est-à-dire le droit des créatures sur Allah, qu'Allah s'est infligé à lui-même. D'accord? Ou s'est imposé à lui-même. Naam. Comme l'a dit le cheikh Taqi al-Din, Ibn Taymiyyah rahimahullah.
Le mot haqq, ça veut dire par le devoir aussi.
Le devoir, non. C'est ça. Haqqullahi ala al-ibad, haqqul ibadi ala Allah. Non, ce sera plus un droit. Le devoir, c'est un wajib. Le devoir, c'est plus wajib. Alors que haqq, c'est le droit. Ils ont traduit par.
Oui, ils ont traduit par le devoir. C'est pour ça.
Parce que c'est faux. En vérité, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que comme on dit, حق الله على العباد. On peut pas traduire par devoir. Le devoir d'Allah sur ses serviteurs. Là, le droit d'Allah sur ses serviteurs. Le droit des créatures sur Allah. Là, oui. Le droit de l'épouse sur son époux. Je dis pas le devoir de l'épouse. En fait, c'est dans l'autre sens. Le droit de l'épouse sur son époux, c'est qu'il dépense pour elle. Et le devoir de l'époux, c'est qu'il dépense pour elle. Tu vois ce que je veux dire? Non. Donc si c'est traduit comme ça, corrigez, inshallah ta'ala. وهل ذلك الحق المذكور في قوله حق العباد على الله هل هو واجب أم لا؟ نقول نعم، هو حق واجب، حق واجب على الله تبارك وتعالى الذي أوجب على نفسه، لكن بإيجاب الله ذلك الحق على نفسه. فالله جل وعلا يحرم على نفسه ما يشاء بما يوافق حكمته، ويوجب على نفسه ما يشاء بما يوافق حكمته سبحانه وتعالى. فكما أن الله حرم الظلم على نفسه، حرم الله جل وعلا الظلم على نفسه، كما في قوله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، كذلك أوجب على نفسه أشياء. نعم، لكن بعض أهل العلم تحاشى إطلاق لفظ الإيجاب على الله جل وعلا، وقال يعبر عن ذلك بأنه حق يتفضل به سبحانه وتعالى. ولا نقول يعني بالإيجاب، لا، نقول بتفضل منه سبحانه وتعالى، يتفضل به سبحانه على من يشاء، فهو حق تفضل لا حق إيجاب. لكن هذا ليس بمتعين، لأن الحق الواجب هو الذي أوجبه الله على نفسه، والعباد لا يوجبون على الله جل وعلا شيئا من الحقوق، بل هو الذي أوجبه جل وعلا على نفسه وتفضل به على عباده، والله لا يخلف الميعاد. Donc est-ce que ce haq, ce droit qui est évoqué ici par Allah Jalla wa Ala lorsqu'il dit, le prophète, le droit des créatures sur Allah, est-ce que c'est un droit qui est obligatoire? Est-ce qu'on peut dire c'est un droit obligatoire sur Allah, qui pèse sur Allah Jalla wa Ala, ou qui incombe à Allah subhanahu wa ta'ala? La réponse, oui, on peut le dire. On dit c'est un droit obligatoire qui incombe à Allah Jalla wa Ala, mais d'une obligation qu'Allah s'est imposé à lui-même. C'est Allah qui se l'est obligé à soi-même, à lui-même. D'accord ? C'est pas nous qui lui avons imposé ou qui l'avons rendu obligatoire. Hacha. C'est Allah Jalla wa Ala qui se l'est rendu obligatoire à lui-même. Comme Allah subhanahu wa ta'ala s'est interdit à lui-même ce qu'il veut conformément à sa sagesse, eh bien Allah Jalla wa Ala s'est rendu obligatoire aussi certaines choses conformément à sa sagesse. Comme il a interdit, Allah Jalla wa Ala, l'injustice. Allah, il se l'est interdit à soi-même. En disant, Ya ibadi, dans le hadith al-Qudsi, ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice à moi-même, et je l'ai donc rendue interdite entre vous. Ne faites pas preuve d'injustice les uns envers les autres. La tadalamu. Donc Allah Jalla wa Ala, de la même façon qu'il s'interdit des choses comme l'injustice, Allah, il s'oblige aussi des choses vis-à-vis des créatures, de ses créatures. Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord ? Mais il faut savoir que certains gens de science évitent d'utiliser le terme al-ijab, le fait de rendre obligatoire. D'accord ? Par rapport à Allah. Ils ont peur, ils veulent pas le dire. Ils évitent de le dire. Et ils disent que, on dira plutôt, c'est pas un droit qui est rendu obligatoire, mais c'est un droit gracieux. C'est un droit gracieux, c'est une grâce qu'Allah nous fait. C'est pas une chose qui s'est imposée ou une obligation sur Allah. Là, ils disent c'est un droit gracieux. Ça y est ? Et pas un droit qui a été rendu obligatoire. Quoi qu'il en soit, yani c'est, il n'y a pas de mal, dit le cheikh, à dire que c'est un droit rendu obligatoire sur Allah tabarak wa ta'ala, mais bien sûr en sachant que c'est Allah qui l'a rendu lui-même obligatoire pour lui. Et Allah, il fait ce qu'il veut selon sa sagesse. D'accord ? Et les créatures, bien sûr, n'imposent rien à Allah subhanahu wa ta'ala parmi les droits qu'ils ont sur Allah subhanahu wa ta'ala. Au contraire, c'est Allah qui se l'est rendu obligatoire à lui-même et qu'il a bien sûr fait grâce à ses serviteurs, et Allah ne manque jamais à sa promesse. Allah ne manque jamais à sa promesse. D'ailleurs, donc, à partir du moment où Allah Jalla wa Ala t'a dit par le biais de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que le droit des créatures sur lui est qu'il ne les châtie pas s'il n'associe pas Allah subhanahu wa ta'ala, sache que Allah jalla wa ala tiendra sa promesse. Tayyib, alhamdulillah, c'est clair, les frères? ثم إن شاء الله تعالى ما دامت ذكر هنا في هذا الكتاب المؤلف المسائل المسائل لهذا الباب لهذه المقدمة إن شاء الله سنقرأها بإذن الله عز وجل. طيب يقول المؤلف رحمه الله فيه مسائل فيه مسائل اقرأ حسن. Non. Donc vu que dans ce livre-là, à la fin des chapitres, l'auteur Imamullah mentionne ce qu'on appelle les masa'il, les points importants à retenir, les points essentiels à retenir des hadiths, des versets qui ont été cités. Eh bien, on va les lire, inshallah ta'ala, même si le cheikh Saleh ne les a pas expliqués au fil de charh. D'accord ? Mais on va juste les dire et les traduire, bi'idhallah. Donc la première, mas'ala, vous les avez, les frères, dans le livre ou pas ?
Non.
Non. Alhamdulillah. Donc le premier point, la sagesse de la création des djinns et des humains. La sagesse de la création des djinns et des humains. C'est tiré de quel verset, bi'idhal, ça ? Ahsant. Donc ce point-là, il est tiré du verset d'Allah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Non. Zin, Hassan. Non. Deuxième point, le fait que le terme al-ibada, c'est al-tawhid. C'est al-tawhid. Car il dit le différent et la querelle qu'il y a eu entre Quraysh et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam concernait le tawhid de l'adoration. De l'adoration. D'accord ? Donc ici, le terme de l'adoration signifie tawhid, l'unicisation dans l'adoration d'Allah jalla wa ala. Non ?
أن من لم يأتي به لم يعبد الله ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد.
Troisième point, celui donc qui n'a pas respecté le tawhid, qui n'est pas venu avec le tawhid, eh bien il n'a pas adoré Allah. Hein? Donc même s'il adore Allah de manière visible, même s'il prie, il jeûne, il fait le hajj, mais qu'à côté il associe Allah subhanahu wa ta'ala, on ne dira pas de lui qu'il a fait des ibadat. On ne dira pas que sa prière est une ibada. On ne dira pas que son jeûne est une ibada tant qu'il n'aura pas fait preuve de tawhid, tant qu'il n'aura pas délaissé toute forme de choses adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Taïeb. Et ceci, dit le cheikh, est inclus dans la parole dans Sourate Al-Kafirun où Allah dit وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ أي لَسْتُمْ عَابِدِينَ عِبَادَتِي أَنَا لَسْتُمْ عَابِدِينَ عِبَادَتِي أَنَا لِأَنَّ عِبَادَتَكُمْ مَبْنِيَّ عَلَى الشِّرْكِ طيب لِأَنَّ عِبَادَتَكُمْ مَبْنِيَّ على الشرك فليست بعبادة لله سبحانه وتعالى. Il dit donc ceci est inclus dans la parole d'Allah sur le Kafirun, le sens rapproché, et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore, c'est-à-dire vous n'êtes pas adorateur de l'adoration dont je fais preuve moi, qui est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala seul. Donc vous n'êtes pas vous des adorateurs dans le sens correct du tawhid. Parce que votre adoration à vous elle est bâtie sur le shirk, alors que la mienne, elle est bâtie sur le tawhid. Elle est ikhlas, la sincérité absolue pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ce n'est pas une adoration qui est vouée à Allah jalla wa ala. D'accord ? Naam, Hassan ? Quatrième point, la sagesse ou la raison ou l'objectif de l'envoi des messagers. Dans quel verset on le voit ça? SD. Le point. La sagesse de l'envoi des messagers. Dans quel verset on le tire ça?
En fait, je
ne
l'ai pas
devant
moi. Je l'ai pas.
Tu n'as pas les points essentiels?
Non.
Mohamed, il est là, non? Mohamed. Ah, il n'y a pas? C'est quoi le kitab?
Nouvelle Massaï.
Hein?
Le livre blanc, c'est ensemble Massaï.
Ah, d'accord, t'as dit. Bismillah.
Tu peux le mettre?
Allez.
Pas la traduction pour Isabelle.
Azeddin, dans quel verset on trouve ça? Al-Hikma, fi irsal al-rusul. Hein? Ça, c'est facile. Aïnam. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Et nous avons envoyé à chaque communauté un messager, hein, afin qu'il leur dise adorez Allah et éloignez-vous du طاغوت. Hassan. Cinquième point, le fait que le message concerne toutes les communautés. Toutes les communautés. La preuve, le verset. Nous avons envoyé à chaque communauté. D'accord ? Sixième point à retenir, le fait que la religion des prophètes, alayhi salatu wassalam, elle est unique. Ils sont venus avec la même religion, c'est-à-dire avec le même appel au tawhid et l'interdiction du shirk. Ils sont tous venus avec ça. La preuve, le verset. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. D'accord ? Même si, bien sûr, comme on l'a dit la semaine dernière, la législation et les lois qui ont été apportées à certaines époques peuvent être différentes de d'autres époques et d'autres messagers. Mais le message principal, l'objectif principal est le même. C'est-à-dire le tawhid. Hassan.
Sabi'a. Al-mas'alatu al-kabira anna 'ibadata Allah la tahsubu illa bil-kufr. Illa bil-kufr lit-taghut fa fihi ma'na qawlihi ta'ala فَمَنْ يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى.
طيب. Septième point à retenir, il dit ici al-mas'alatu al-kabira. C'est un point qui est important ici. Il dit l'adoration d'Allah tabarak wa ta'ala ne pourra se réaliser, se produire qu'à travers le fait de mécroire au tarout, le fait de tourner le dos au tarout. Et cela est inclus dans la parole d'Allah Jalla wa'ala, surat al-Baqara, dans le sens rapproché. Et celui qui mécroit au tarout et qui croit en Allah Jalla wa'ala, il aura certes saisi l'anse la plus solide. Le verset. D'accord ? Et une parenthèse par rapport à la semaine dernière, Tawhid. J'avais dit qu'on devait détester Tawarit, le Tawhid. On se doit non seulement de mécroire en lui, mais on se doit aussi de détester ce qui est adoré en dehors d'Allah Jalla wa'ala. Mais bien sûr, être exclu de cette hostilité qu'on doit avoir envers ces choses-là, tous ceux qui n'ont pas demandé à être adorés comme les prophètes et les messagers. Alayhi salatu wassalam. D'accord ? Là, quand on parle de Tawhid, et déjà en plus, les prophètes, on ne les appelle pas Tawarit. On ne dit pas les prophètes qui sont adorés comme Isa. On ne dit pas Isa, c'est un Tawhid. Parce que les chrétiens, ils l'adorent l'un. Pourquoi ? Parce que Isa, il n'a jamais appelé à être adoré. Au contraire. Vous voyez ? Qui nous rappelle c'est quoi un Tawhid ? le frère Daoud. C'est quoi un taout?
C'est quelque chose qui est adoré en dehors d'Allah.
Seulement? On avait donné une définition plus générale. Ibrahim.
Sincère.
Nourdine.
Tout ce qui est en dehors d'Allah est belle.
Là, Daoud, tu l'as ou pas?
Toute chose adorée en dehors d'Allah. On a toujours les bonnes confirmations.
Ben, Akhi, Sama.
C'est.
Oussama, Oussama.
Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et tout ce qui pousse à dépasser les limites.
Voilà. Ah, c'est déjà plus précis. Akhi?
C'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et qui prône cette adoration.
Celle de Oussama, elle est plus complète. Dans le sens qu'on avait dit, comme l'a dit Ibn Qayyim, en غيره, الطاغوت هو ما تجاوز أو جاوز ما جاوز به العبد العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. On a dit la semaine dernière celle-là. الطاغوت, comme l'a dit Ibn Qayyim رحمه الله et d'autres, il dit c'est la chose par laquelle le serviteur va dépasser ses limites. La chose par laquelle le serviteur va dépasser les limites. Que cette chose soit une chose qui est adorée, ma'boud, ou suivie, matbou', ou obéie, muta'. Hein? Qu'est-ce qu'il dit ensuite? Wa ru'usuhum khamsa. Et les têtes de file des tawarites sont au nombre de 5. C'est qui les frères? Pour ceux qui ont étudié Rusul Talata. Iblis, la'anahullah. Donc la tête de file de Tawarit, c'est Iblis. D'accord? Ensuite, qui on a? Pharaon. Je vais sortir la liste, la complète. Là.
Ce qui juge autre que les lois d'Allah.
Naam, man hakama bighayri ma anzalallah. Man hakama bighayri ma anzalallah. Celui qui juge par une loi. Je dirais même plus contraire à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Contraire à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un ta'ud. Vous voyez? Non. Et bien sûr, avec la croyance que cela est permis, ou que cela est mieux que la loi d'Allah, ou que cela est identique à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce cas-là, c'est un ta'ud. Ensuite,
celui qui demande à être adoré.
Non. Man da'a an-nas ila 'ibadati nafsihi. Celui qui appelle les gens à l'adorer. Lui, c'est un tawhid. Pharaon, c'est un tawhid parce qu'il appelle les gens à l'adorer. Non, c'est ce que tu voulais dire. Zidou, quatrième. Man 'ubida wa huwa rad. Celui qui est adoré et qui accepte et qui agrée ça. Donc du coup, on ne peut pas dire qu'Issa, c'est un taureau. Parce qu'Issa, même s'il a adoré, il n'accepte pas ça. Au contraire, il a mis en garde, il a interdit cela. Ça y est. Et enfin,
celui qui prétend connaître le monde invisible.
Non. Man idda'a madha bi'ilm al-ghayb. Celui qui prétend connaître al-ghayb, l'invisible. Que ça, Allah Jalla wa'ala connaît. C'est pas les frères? Donc toutes ces cinq-là, c'est les têtes des tawarit. Naam. Hassan.
Naam. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله.
عام.
عام.
أعيد. أن الطاغوت عام.
أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله.
نعم. 8e point. Le fait que le tawhid englobe, comme on a dit, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous on rajoute wa huwa rad, et qui agrée cela, et qui accepte cela. Zid.
Tasi'a, ridamu sh'ni al-ayat thalathi al-muhkamati fi surati al-an'am inda al-salaf wa fiha 10 masail awwaluha an-nahy 'an ash-shirk.
Naam. 9e point, l'importance énorme des 3 versets Al-Muhkamat, c'est-à-dire que n'ont jamais été abrogés, de la sourate Al-An'am auprès des ou chez les salafs, rahimahumullah, et dans lesquels il y a, comme on a dit tout à l'heure, 10 wasaya, 10 recommandations de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la première de ces recommandations-là, l'interdiction de l'associationnisme.
الآيات المحكمات في سورة الإسراء وفيها 18 مسألة بدأها الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذمومًا مخذولا وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة.
نعم. طيب. Le deuxième point, les versets de la sourate Al-Isra. Les versets de la sourate Al-Isra, dans lesquels on a ici 18 mas'ala, 18 points. D'accord ? Donc, dans la sourate Al-An'am, on avait les 10 recommandations. Là, on a les 18 points. Donc, pour ceux qui veulent les connaître, ils retournent à ces versets-là de la sourate Al-Isra, verset dans lequel Allah Jalla wa'ala a commencé par sa parole dans le sens rapproché. N'assigne point à Allah une autre divinité. Là, encore une fois, il a commencé par l'interdiction du shirk. N'assigne point à Allah une autre divinité, sinon tu te trouveras méprisé et abandonné. D'accord ? Madhmouman, makhdoulan. Et il a terminé tous ces points-là dans le verset numéro 39. Numéro 39 de la même sourate, où il dit « Tout cela fait partie de ce que ton Seigneur t'a révélé de la hikmah. N'assigne donc pas à Allah une autre divinité, sinon tu seras jeté dans l'enfer, blâmé et repoussé. » Donc vous voyez ici, il a commencé par l'interdiction du shirk et il a terminé par l'interdiction du shirk. D'ailleurs, donc Allah Jalla wa Ala ici attire notre attention et nous sensibilise sur la gravité de ces points-là. Jusqu'à ce qu'ils disent à la fin, ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ. Dans le verset 39, tout cela fait partie de ce que ton Seigneur t'a révélé de la hikmah. D'accord ? C'est bon les frères ? Non. Hassan ?
Qu'est-ce que le neuvième point, j'ai pas...
Le neuvième, c'est l'importance des versets de la sourate Al-An'am chez les salafs, où on a les dix recommandations, et dans lesquelles il avait commencé par l'interdiction du shirk. C'est bon ?
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
نعم. Le 11e point, le verset de la sourate An-Nisa qui est appelé chez les gens de science, Al-Sunnah wal-Jama'a, le verset des 10 droits. Ayat al-Huquq al-Ashara. Le verset des 10 droits. D'accord ? Huquq, c'est le pluriel de haqq. Allah Jalla wa'ala, le premier droit qu'il a cité, c'est lequel ? C'est son droit à lui. En disant, wa'abudullaha wa la tushriku bihi shay'a. En disant, et adorez Allah et ne lui associez rien. إذن أحق الحقوق حق الله سبحانه وتعالى، ولا تنفع الحقوق إلا به، فبدأت هذه الحقوق بحق الله سبحانه وتعالى. لهذا قال شيخ العثيمين رحمه الله لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم حكيم ابن حزام رضي الله عنه عمن كان يتصدق ويعتق ويصل رحمه في الجاهلية، في الجاهلية، هل له من أجر؟ هل له من أجر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من الخير، أسلمت على ما أسلفت من الخير. فهذا يدل على أنه إذا لم يسلم لم يكن له أجر، إذا لم يسلم لم يكن له أجر، فصارت الحقوق كلها ماذا؟ لا تنفع إلا بتحقيق حق الله سبحانه وتعالى. يجي شيخ العثيمين رحمه الله par rapport à cette masala et ce verset, Allah il a commencé par son droit. Ça nous montre que c'est le droit le plus obligatoire de tous les droits qui existent. D'accord ? Et que même si tu respectes les droits de toutes les créatures, si tu ne respectes pas le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne servira à rien du tout. Tu respectes le droit de tes parents, de ta famille, de tes frères, de tes sœurs, des musulmans, des animaux, le droit de tout le monde. Tu ne respectes pas le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela ne sera pas utile. Donc le fait qu'il ait commencé par le droit d'Allah nous montre que son droit est le plus important. Et ça on le voit dans le hadith de lorsque Hakim ibn Hizam, le compagnon, il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a demandé: qu'en est-il de celui qui a donné l'aumône, qui a maintenu les liens de parenté, qui a libéré des esclaves, mais à l'époque pré-islamique, avant l'islam, yani. Est-ce qu'il est récompensé après l'islam ou pas? Les prophètes de lui répondre: Aslamta ala ma aslafta min al-khayr. Tu t'es, ou tu as embrassé l'islam sur ce que tu as fait de bien dans le passé. Il dit, Cheikh Al-Uthaymeen, ça c'est la preuve que celui qui a fait du bien à l'époque où il n'était pas encore musulman, puis il s'est converti à l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala, il le récompense pour tout ce qu'il a fait de bien avant. Allahu Akbar. Subhanallah, imagine-toi. Donc ça, ça nous montre que, également, que si le droit d'Allah jalla wa ala, il n'est pas respecté, eh bien, les droits respectés en faveur des créatures ne serviront à rien pour toi, tant que tu n'auras pas respecté le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Et ça veut dire aussi que celui qui a fait du bien dans sa vie, qui a respecté le droit des créatures, mais qui n'embrasse pas l'islam, et qui meurt sur ça, sur le kufr, il n'aura aucune récompense dans l'au-delà, même s'il a fait du bien toute sa vie, pour les créatures, pour les pauvres, les orphelins, hein, qui partent dans des missions humanitaires à travers le globe, dans les quatre coins du globe, s'il n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne peux pas dire rahimahullah quand il meurt, comme certains le font pour le pape ou l'abbé Pierre, ou Sœur Teresa.
Mère Teresa.
Je ne peux pas. Pourtant, ils ont fait du bien. Certainement, ils ont fait du bien dans leur vie. Ça y est. Mais le droit le plus important, ils ne l'ont pas respecté. Non, Hassan.
ثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته.
نعم. Donc le douzième point, la sensibilisation sur la recommandation, le testament du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au moment de sa mort. Il en avait dit que en vrai il n'a pas écrit le testament, mais s'il avait écrit un testament, il aurait mis dedans ce qu'il y avait dans ce qu'il y a dans la sourate, yani elle, la sourate Al-An'am. Al-An'am. Treizième point, la connaissance du droit d'Allah sur nous. D'accord ? Et ça, on le trouve dans le hadith de Mu'adh. Quel est le droit d'Allah sur les créatures ? En ya'budu wa la yushriku bihi shay'an. Qui l'adore et qui ne lui associe rien.
معرفة حق العباد عليه إلى أدو حقه.
أدو.
أدو حقه.
Quatorzième point, la connaissance du droit des créatures sur Allah, Jalla wa Ala, si bien sûr ils ont respecté son droit. D'accord ? Naam. Adhinu inshallah ta'ala.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي
عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة.
نعم. الكازيم بوان. Le fait que cette mas'ala, ce point, la majorité des compagnons ne le connaissent pas. Pour ce hadith, le hadith de Mu'adh, la majorité des compagnons ne le connaissent pas. Hein? Car le prophète, il a dit à la fin, la tubashirhum. Ne leur dis pas. Fayattakilou. Ne leur dis pas par peur. qu'il se repose que sur ça, qu'il délaisse les actes et les œuvres. Naam. وذلك لأن معاذا أخبر بها. Et malgré ça, le Mu'adh, il a transmis. La preuve, c'est qu'on le sait. Donc il a transmis quand même. Ça y est, akhbara biha. Limada. Ta'athuman. Ay khurujan min ithm al-kitman. Khurujan min ithm al-kitman. Inda mawtih. Wa ba'da an mata kathir min as-sahaba. وكأنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى أن يفتتن الناس بها فيتكلوا. طيب. ولم يرد كتمها مطلقا في الحقيقة. لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم كتمها مطلقا. لماذا؟ قال شيخ الثيمين لأنه لو أراد ذلك لم يخبرها لا معاذا ولا غيره. طيب. Mais quand même, Mu'adh a transmis ce hadith par peur de tomber dans un péché, qui est le péché de cacher une science. De cacher une science. D'accord ? Avant de mourir. Donc il a quand même attendu pour le propager. Et il a propagé avant sa mort. Mais après que beaucoup de sahaba sont morts, après la mort de la majorité des chers, des ulama, des sahaba, pardon, c'est là qu'il a propagé, avant de mourir. Par peur de tomber dans le péché de cacher une science. Et parce que c'est comme s'il savait aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a pas autorisé de le transmettre au départ parce qu'il avait peur que les gens soient trompés par ça. Que les sahaba à l'époque soient trompés par cette parole-là. Vu qu'Allah jalla wa ala, ne châtiera pas celui qui ne fait pas des shirks, il suffit qu'on ne fasse pas des shirks du coup. Il suffit qu'on n'associe pas Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on l'adore. Mais du coup, même si on fait des péchés, allez, on ne sera pas châtié. D'accord ? Hadala. Donc, pas peur qu'il tombe dans dans cette compréhension du hadith. Il a dit à Mu'adh, ne le transmets pas. Fala tubashirhum. Yani, ne leur transmets pas cette bonne nouvelle. Le bishara, c'est une bonne nouvelle. طيب فيتكلوا mais en vérité Mu'adh savait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voulait pas par cela cacher cette information là de manière absolue, parce que s'il avait voulu cela, il allait vraiment dissimuler cette information là il aurait même pas dit à Mu'adh. Pourquoi Mu'adh et pas aux autres? D'accord. Donc s'il a dit à Mu'adh, en gros, et c'est comme s'il lui disait, pour l'instant, garde-le pour toi, attends, et quand ce sera le bon moment, tu le transmettras, inshallah ta'ala. Taïeb. Allah ta'ala a'lam. Parce qu'il se peut aussi que, à ce moment-là de la révélation, il n'y avait pas encore tous les hadiths comme on les a aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a pas que ce hadith. On a plein d'autres hadiths qui nous font comprendre que celui qui est mort sur le tawhid, ça ne veut pas dire qu'il va échapper à l'enfer de manière absolue. On sait par exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va intercéder pour des monothéistes qui sont entrés en enfer. Donc s'ils sont entrés en enfer malgré le fait qu'ils soient monothéistes, ça veut dire que celui qui est mort sur le tawhid, il se peut qu'il entre en enfer aussi. Comprenez ? Donc nous on a tous les textes aujourd'hui, alhamdoulilah. Lorsqu'on réunit les textes, on arrive à la conclusion que c'est pas parce que tu es mort sur le tawhid, que tu n'as pas associé à Allah subhanahu wa ta'ala, que tu vas être épargné du feu de l'enfer pour autant. si tu as commis des péchés graves et qu'Allah ne te pardonne pas, il se peut que tu entres en enfer pour un certain temps. Vous comprenez? Il se peut que à l'époque des Sahaba, il n'y avait pas encore toutes ces paroles-là du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous comprenez la différence entre les deux époques? Taïen? Et celui qui est concerné par ce hadith, c'est celui qui a yani, qui a réalisé tahqiq tawhid, qui a vraiment abouti, arrivé à l'aboutissement du tawhid. C'est pas n'importe qui. Et l'aboutissement du tawhid, la concrétisation du tawhid, elle ne peut se faire qu'à travers le délaissement des interdits. D'accord? Donc c'est pas quelque chose de simple. Tahqiq tawhid. Donc si tu veux être concerné par ton droit sur Allah tabarak wa ta'ala, c'est-à-dire qu'il ne te châtie pas quand tu ne lui associes pas, tu dois t'éloigner des interdits. C'est pour ça Allah Jalla wa'ala, quand il parle de certains péchés, hein, il en parle comme si c'était une catégorie des shirk. Qu'est-ce qu'il dit Allah Jalla wa'ala dans la sourate Al-Jathiyah? أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَاهَهُ هَوَاهُ. N'as-tu pas vu celui qui a pris ses passions pour divinité? Ses passions pour divinité. Il dit, Cheikh Al-Uthaymin, celui qui commet un péché, en vérité, c'est une forme de shirk. C'est une forme de shirk.
Hein? On avait vu que c'était une forme de sihr. C'est comme ça que c'était une forme de shirk.
De?
C'est parce que c'est une forme d'istihlal que c'est une forme de shirk.
Ça dépend. Istihlal dans le sens apparent du terme, dans le sens apparent. Mais dans la croyance, pas forcément. D'accord? Mais c'est ça, celui qui commet un péché, c'est comme s'il avait rendu licite ce qu'il a fait. Et c'est comme s'il avait fait passer sa passion avant Allah subhanahu wa ta'ala. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il dit Allah, أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَاهَهُ هَوَى. Et tu n'as pas vu, celui qui a pris pour passion sa divinité, ça ne veut pas dire qu'il l'a adoré ou qu'il lui voue une adoration. Mais vu qu'il a fait passer cette passion-là avant le droit d'Allah, tabarak wa ta'ala, c'est comme s'il l'avait associé. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que si tu veux réaliser et aboutir à un tawhid parfait, complet, jusqu'à ce que tu sois concerné par ce hadith, il faut que tu t'éloignes des péchés. D'accord? Bien sûr, il ne faut pas que tu les associes. Il ne faut pas oublier aussi les péchés qui n'atteignent pas le degré de shirk, certes, mais qui vont faire que ton tawhid sera parfait. Et à partir de ce moment-là, tu pourras prétendre hein, à jouir de ce bienfait-là qui est qu'Allah ne te châtie pas lorsque tu vas mourir dans cet état-là. Fahimtum? Non. Fa'naktafi bihada al-qadr bi'idhni Allah azza wa jal. والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه إلى يوم الدين.